L'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Exactement 6h15 minutes à Bukavu, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue pour suivre ce Radio Journal. Le fil de l'information, trois titres. La COPEC Kamanyola a été cambriolée dans la nuit du jeudi à ce vendredi. En plus du vol, les agents commis à la garde ont été violemment agressés. Les questions sur la gestion financière de la province du Sud Kivu étaient au centre d'une plénière qui a débattu de la question orale initiée contre le ministre provincial des Finances, Bernard Mouindo. Ce dernier a répondu aux questions sur divers sujets, notamment l'échec remis aux administrateurs des territoires, mais également les mécanismes envisagés par le gouvernement provincial du Sud Kivu pour mobiliser plus de ressources. En sport, Ligue 2 de la Linafoot, deux matchs se sont joués hier jeudi au stade à Concorde de Kadutu. Ajax a fait jeu égal avec Kapako de Beni et Mungano a renversé Sokozaki de Butembo sur le score de 5-1. Voilà tout pour le sommaire, nous sommes aujourd'hui vendredi 22 novembre 2024.
Ce journal vous est présenté par Expedia Kialou.
Vous l'avez suivi au sommaire, la COPEC Kamanyola vandalisait une somme importante d'argent apportée par des inconnus armés dans la nuit du jeudi au vendredi. En effet, vers minuit, des hommes armés en tenue militaire parlant Lingala ont attaqué la coopérative d'épargne et de crédit COPEC Kamanyola située au centre commercial de Kamanyola en territoire de Walungu sur la route nationale numéro 5. Selon un communiqué de la nouvelle société civile congolaise de la place, consulté par le correspondant de Radio Mandela, les assaillants ont forcé les portes avant de détruire le coffre-fort principal de la coopérative en portant une somme importante d'argent. Cette opération qui a duré plus d'une heure s'est déroulée sans aucune intervention des forces de sécurité malgré les multiples alertes lancées par les habitants du quartier déplorent cette structure citoyenne. En plus du vol, les agents commis à la garde ont été violemment agressés. Certains tabassés avec une brutalité qu'ils ont dû être transportés en urgence à l'hôpital pour des soins appropriés. Ce manque de réaction des services de sécurité soulève des interrogations sur leur capacité à protéger les citoyens. La nouvelle société civile congolaise dénonce une inaction récurrente et appelle à des mesures urgentes pour sécuriser cette entité au stade d'émergence. Il faut signaler que cette attaque s'ajoute à une série de vols récents jugés des cas isolés par les services de sécurité. La nouvelle société civile congolaise exhorte les autorités compétentes à diligenter des enquêtes approfondies pour identifier et arrêter les auteurs de ces actes. Elle invite également la population à renforcer sa collaboration avec les forces de l'ordre en dénonçant rapidement toute activité suspecte. Vous l'avez suivi au sommaire également, le ministre provincial de Finances Bernard Mouindo a été devant les députés provinciaux du Sud Kivu réunis en plénière hier jeudi. Ceci pour répondre aux questions contenues dans la question orale avec débat initié par le député Leban Fungulu. Cette question orale était relative à la mobilisation, l'encadrement, la gestion et la rétribution des recettes dans la province du Sud Kivu. L'auteur de cette question a cherché à savoir combien de 6 chèques remis aux responsables de territoires ont été payés, pour quel montant et dans quelle institution bancaire. À cette question, le ministre a répondu qu'il s'agissait au départ d'un geste symbolique à travers un spécimen de chèque au stade de la Concorde lors du meeting de redevabilité. Par la suite, les responsables des territoires devraient apporter et défendre les projets à réaliser dans leurs entités pour recevoir le financement respectif. Le ministre a ajouté qu'à ce jour, 3 entités ont finalisé le processus de validation de leurs projets par les services techniques. Ce qui fait qu'en date du 13 novembre, le comptable de la province a fait un dépôt au compte de ces 3 entités au sujet du maintien de la paix manuelle en province, 3 mois depuis l'investiture du gouvernement Jean-Jacques Purusi. Le ministre a prétendu que ce mode est envisagé pour maîtriser réellement les effectifs en attendant de mettre sur pied une identification biométrique et d'ajouter que les agents fictifs à la DPMR ont été dénichés à la suite d'un contrôle physique et administratif, ce qui a permis de capter plus de 435 000 dollars américains. africains qui se volatilisaient dans la nature. Bernard Mouindo indique également que la question de la digitalisation de la chaîne des dépenses a été soumise au Conseil des ministres et des propositions ont été couchées dans le projet de budget 2025. Il devra donc répondre aux autres questions des élus provinciaux le mardi prochain. On l'écoute au sortir de cette audience.
C'est une plateforme intéressante, une plateforme qui réunit des responsables de la province et qui permet qu'il y ait échange des avis, des opinions autour des questions pertinentes sur l'économie et les finances de la province. Donc l'Assemblée a fait son travail, c'est un exercice normal, un exercice parlementaire dans la démocratie. Et nous nous sommes présentés pour répondre à toutes ces préoccupations parce qu'on cherchait aussi l'opportunité de parler à nos populations. Et la meilleure façon de le faire, c'est de le faire devant les élus du peuple qui relaient le message vers les populations qu'ils représentaient.
Vous venez de suivre le ministre provincial de Finances et de l'Économie. Et le gouverneur de province, Jean-Jacques Pourroussi, lance les travaux de construction du bâtiment qui va abriter le bureau du programme Star-Est. C'est dans la soirée du jeudi 21 novembre que le gouverneur, revenant d'une mission à Kinshasa, a procédé au lancement des travaux de construction du bâtiment qui abritera les bureaux de la coordination provinciale du programme Star-Est, un bâtiment qui va être érigé dans l'enceinte du gouvernorat de province. Cette infrastructure s'inscrit dans le cadre du développement durable et du renforcement des capacités locales. Du point de vue technique, ce bâtiment de trois niveaux comprendra notamment 25 bureaux, une grande salle de réunion, un dépôt, une salle de réception, 7 latrines VIP, des urinoirs et 6 balcons, 2 terrasses, le tout couvert d'une toiture métallique et sécurisée d'une clôture. Une toiture métallique, la superficie totale du bâtiment est de 1260 mètres carrés. Ce travaux commence ce vendredi 22 novembre et vont durer au total 7 mois. Et l'Institut pour la gouvernance et l'éducation électorale propose l'organisation des états généraux du secteur de mines qui devront dégager des recommandations en vue de l'amélioration du fonctionnement de ces secteurs dans la province du Sud-Kivu et en RDC de manière générale. Ces structures de la société civile le fait savoir dans une lettre ouverte adressée au président de l'Assemblée nationale et dont copie est parvenue à Radio Mandelo. Le contenu avec Alain Kabika.
À travers ces documents, son signataire et coordonnateur de l'IGE, Patrice Lwabaguma, pense qu'aujourd'hui il est important de revoir certaines choses dans la réglementation minière en République démocratique du Congo, plus particulièrement dans la province du Sud-Kivu, afin de définir une bonne politique pouvant faciliter que les minerais soient un train de développement, surtout dans les secteurs des infrastructures routières. Selon lui, les exploitations illicites des minerais par les entreprises à capitaux étrangers demeure un casse-tête sous la bénédiction de certaines autorités au niveau provincial et national. Patrice Lwabaguma.
Nous avions chuté par l'appui, évidemment, à l'organisation des états généraux du secteur minier, mais évidemment, tout en essayant de décentraliser ces états généraux, c'est-à-dire organiser d'abord les états généraux dans les zones ou les provinces assez productives dans les zones des minerais, mais enfin, ces recommandations sont amenées dans une qui sera organisée au niveau national et où aussi on exige la participation active de la société civile à travers son groupe de travail thématique mine et aussi à travers la représentativité aussi des femmes qui travaillent dans les secteurs de mines, de manière que nous puissions décortiquer froidement les problèmes au sein des provinces et remonter les recommandations liées à ces problèmes au niveau national.
Notre source a fait savoir que plusieurs cas d'implication d'anciens groupes armés sont signalés dans plusieurs axes de la province du Sud-Kivu. C'est notamment dans les hauts plateaux des Numbi, Katasomo vers les parcs nationaux des Kahuzi-Biega, Bunyakiri dans les territoires des Kalehe, ainsi que dans les axes Nzibira-Kigulu-Benzovu, où des barrières sont créées pour percevoir des minerais. Lwabaguma interpelle les autorités militaires afin qu'elles mettent fin à cette situation qui implique des personnes non éligibles dans les secteurs des mines.
et le ministre provincial de l'Environnement, Économie Verte et porte-parole du gouvernement provincial du Sud Kivu, Lugagnon Bachizi, interdit aux organisations impliquées dans la collecte et l'évacuation des déchets dans la ville de Bukavu de décharger, jeter ou déverser des déchets sur les voies publiques. Détail Omer Moudekereza.
Cette décision est contenue dans un communiqué officiel. Consulté par la rédaction des radios Maendeleo, c'est jeudi 21 novembre 2024. Le ministre provincial indique que cette mesure vise à renforcer les actions d'assainissement et assurer une gestion rationnelle des déchets dans la province du Sud Kivu. Dans ce même communiqué, le ministre provincial adresse également une mise en garde à toute personne morale ou physique qui sera surprise d'entrer et déverser des déchets sur la route nationale numéro 2, au niveau du lieu appelé communément essuyé sous ses environs, ou des travaux de construction sont en cours. Didier Kabi précise que des sanctions exemplaires seront appliquées à tout contrevenant en conformité avec les dispositions réglementaires en matière de protection de l'environnement et d'assainissement. Celui-ci invite par la même occasion la population à signaler toute infraction à ces directives en contactant immédiatement les autorités compétentes pour une intervention. Enfin, le ministre de l'Environnement a rappelé à tous les acteurs, tant publics que privés, leur obligation de contribuer activement à la salubrité et à la préservation de l'environnement pour l'intérêt du bien-être collectif de la population du Sud Kivu.
Suivez Radio Maendeleo en direct partout dans le monde sur www.radiomaendeleo.org. Pour être au parfum de l'actualité, visitez régulièrement les sites internet de Radio Maendeleo. Radio Maendeleo, c'est vous.
Exactement 6h26 minutes à la suite de ce radio-journal. Mettre en œuvre le comité technique provincial qui va faciliter un cadre d'échange, de communication et de partage d'informations en ce qui concerne certains projets communautaires de stabilisation réalisés dans la province du Sud Kivu. C'est donc la mission du coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS, qui séjourne à Bukavu depuis hier jeudi 21 novembre 2024. La suite avec Mapendo Linda.
William Kapoukou-Boisbois renseigne que ce comité va également identifier d'autres opportunités et choisir des projets qui peuvent être réalisés en faveur des communautés.
Ce cadre va aussi nous faciliter à identifier d'autres opportunités et toujours dans la communauté et choisir les projets ensemble et voir comment nous allons les réaliser d'une façon cohérente et d'une façon coordonnée aussi avec les partenaires. Nous voulons que la population puisse adopter le PDDRCS, parce que le PDDRCS a un volet sécuritaire et puis ça aussi un volet développement socio-économique.
Il a remercié le président de la République qui a mis en place ces programmes pour la consolidation de la paix dans l'Est du pays en vue de renforcer la cohésion sociale, la réconciliation et les développements socio-économiques et la stabilité. Après les ports Iwoussi, William Kapoukou-Boisbois s'est rendu au bureau du PDDRCS situé à La Botte où il s'est entretenu avec les agents de ses services. Ici, il les a appelés à l'unité, l'amour du travail et à la collaboration pour faire rayonner les activités de ses programmes en province. Dans sa délégation, certains représentants des agences des Nations Unies et ONG internationales. Pour la journée de vendredi 22 novembre, il va s'entretenir avec les autorités locales et les représentants des ONG qui travaillent dans les secteurs humanitaires.
Le chef de la chefferie pleine de la Rousie appelle les acteurs impliqués de près ou de loin dans le conflit entre les communautés vivant dans cette entité de faire de la paix et la sécurité des populations leur cheval de bataille, tout en déplorant que ses habitants ne bénéficient plus d'assistance administrative depuis plusieurs années suite aux turbulences. Il veut voir l'autorité compétente trouver une solution durable. Richard Ndjimbere, chef de la chefferie pleine de la Rousie, en parle au micro de notre permanent dans la plaine de la Rousie, Wendo Joé.
Tout a commencé depuis juin où un des métaxateurs a été battu à mort par des inciviques. Vous savez que pour être chef coutumier, vous devez être issu d'une lignée. Le chef de groupement est issu d'une famille. Évidemment, lorsque la population n'a pas de chef, elle devient comme un troupeau sans berger. Il faut vraiment que l'autorité au niveau de la province, au niveau du territoire, puisse s'y pencher d'une manière objective. Vous imaginez qui est deux chefs de groupement, il y a l'un qui ne veut pas donner au niveau de la chefferie les rapports qu'il collecte au niveau de son groupement.
Vous venez donc de suivre le chef de la chefferie pleine de la Ruzizi, Richard Nijimberi. Et les comités humanitaires de base du groupement Binga Chefferie de Bouavou en territoire de Calais plaident pour une assistance en faveur des déplacés des guerres et leurs familles d'accueil dans le village Kacheke. Dans une lettre adressée au chef du bureau des Nations Unies pour les affaires humanitaires au Tchad-Sud-Kivu et donc au pays à Radio Mendelo, le comité humanitaire de base indique que depuis le mois de septembre 2024 jusqu'aujourd'hui, les déplacés des guerres en provenance de Massissi, Rubaya, Ngungu, Kichanga dans la province du Nord Kivu s'installe dans le village Kacheke et les Mera en territoire de Calais. Ces déplacés constituent en majorité des femmes et des enfants ainsi que leurs familles d'accueil traversent une situation déplorable par manque d'assistance humanitaire et sollicitent une aide auprès des organisations tant nationales qu'internationales et ou des personnes de bonne volonté. Ils demandent également à l'État congolais de prendre ses responsabilités en main pour mettre fin à la guerre au Nord Kivu. L'un des signataires de cette lettre est président de l'ancien civil sous noyau du groupement Mbinga Sud, Chukuru Buroko en parle.
Les déplaçants de guerre du M23-RDF et Wazalendo en provenance du Nord Kivu, dans les territoires de Massissi, chefferie de Bahoundé, nous sommes dans le groupement de Mufumishenga, dans la zone de santé de Kiroche, et de santé de Bufamando, ont été accueillis dans les familles d'accueil du village de Kacheke. Ils sont au total 2824 personnes. Ils sont retrouvés dans 471 ménages et d'autres dans le site de Bogamanda Barbuzunga. Nous demandons aux humanitaires de leur venir en aide pendant cette période qui est vraiment difficile, car en tout cas leur vie est en danger.
Vous venez donc de suivre Chukuru Buroko Adolphe, qui est président de la société civile sous noyau du groupement Mbinga Sud. Et la société civile du groupement Péné en territoire d'Idji plaide pour une intervention des organisations de développement afin de sauver les agriculteurs exposés à une forte famine les jours à venir. Amos Bouyeye, président de cette structure, l'annonce à Radio Mandeléo quelques semaines après des fortes pluies qui ont détruit les cultures dans cette partie de la chefferie Ntambuka. Notre source indique que la population du groupement d'Mpene est exposée à une forte famine car des champs sont restés vides après des pluies avec grêle qui ont détruit toutes les plantes. Il appelle les autorités provinciales et les organisations de développement à intervenir urgentement pour sauver la population. Amos Bouyeye en parle au micro de Richelieu Biamana.
Nous demandons aux organisations de venir en assistance à cette population. Ce qui est sans cela, il y a aussi des problèmes qui vont surgir comme des justices populaires, comme des vols. Parce que quand quelqu'un va trouver son voisin dans son champ, ça sera déjà des problèmes. Puisque ça va aussi occasionner les vols et ces vols qui vont maintenant amener à des justices populaires. Pour sécuriser cette population, nous demandons maintenant aux personnes de bonne foi, aux organisations, au gouvernement provincial, tant national, de venir en aide cette communauté, cette population du groupement Péné pour lutter contre cette insécurité alimentaire.
Nous restons toujours à Idji où les chefs des groupements, ceux des villages, les acteurs de la société civile et les partenaires évrants dans la chefferie Ntambuka définissent des stratégies pour la mise en œuvre du plan de développement local de cette entité. Pendant deux jours, les participants à ces assises vont définir les objectifs, les axes stratégiques et les contenus du plan de développement local défini à 12 millions de dollars américains pour une période de 5 ans, soit de 2024 à 2028. Directeur de programme chez VNG International en RDC, Lochi Mozalioa en parle.
Ça recadre pratiquement la vision de développement de l'entité. Ça reprend les axes stratégiques d'intervention, également les actions prioritaires à mener. Et dans le plan de développement local de la chefferie Ntambuka, il y a également un plan d'investissement local évalué à 12 millions de dollars pour les 5 prochaines années. C'est donc un instrument qui va permettre à ce que les partenaires techniques et financiers de la chefferie s'aligner et aligner leurs interventions dans ces priorités défini par les fils et les filles de la chefferie Tambon. Les stratégies sont multiples. On réfléchit avec les différentes parties prenantes sur la mobilisation communautaire.
Ces assises se tiennent à Idju et se clôturent ce vendredi 22 novembre 2024. Elles bénéficient de l'appui technique et financier de l'organisation néerlandaise VNG International à travers le projet Transition pour le développement inclusif à l'est de la RDC, TRID en sigle. Parlons toujours de ce projet, atténuer l'insécurité et l'instabilité en favorisant l'économie locale. C'est l'objectif que vise le projet TRID en RDC. Ce projet exécuté dans le territoire de Calais et Ouvira et Idju par le consortium Zoa, Griterra et VNG se focalise sur la sécurité alimentaire et la gestion intégrée des ressources en eau. Détail Hélène Boudjiriri.
Débuté depuis juillet 2021, ce projet a contribué à l'accroissement de l'accès à la terre par les petits exploitants, l'amélioration de la sécurité d'occupation des petits exploitants et la réduction des conflits liés à la terre. À cela s'ajoute le renforcement de la gestion intégrée des ressources en eau pour promouvoir des systèmes agricoles résilients. Au cours d'un atelier d'information sur l'évolution du projet TRID organisé à Bukavu, le jeudi 21 novembre 2024, le directeur pays des OA et RDC, Timothée Rukundo, a fait savoir que des plaidoyers ont été menés en termes de facilitation entre les détenteurs des concessions et les agriculteurs pour qu'ils trouvent où mener leurs activités champêtres. Timothée Rukundo.
À ce stade, le projet a mis parcours et dans le cadre de l'accès sécurisé à la terre à travers les contrats de métayage pour permettre aux petits exploitants agricoles d'avoir un espace pour cultiver. Donc là, nous avons des contrats de métayage qui ont été signés entre les métayers et les concessionnaires. Il y a aussi une approche qu'on appelle le plan intégré collectif, qui est une approche qui permet aux exploitants agricoles de développer une vision des ménages, mais aussi une vision de développement du village. Et là, nous voyons des initiatives locales pour la construction des ponts, réhabilitation des routes de cette agricole, une amélioration de l'environnement. Et dans le cadre des chaînes de valeur agricoles, nous voyons aussi des coopératives qui ont été appuyées, où la production a été améliorée.
Le projet TRID est exécuté dans la province du Nord et Sud Kivu pour une durée de 48 mois et est financé par les royaumes des Pays-Bas. Ayant ouvert officiellement ses assises, le vice-gouverneur Jean-Jacques Elakano remercie ses partenaires pour le travail qu'ils effectuent dans la province du Sud Kivu et promet son accompagnement pour la réussite du projet TRID.
Et avant de parler sport, disons-le, l'avenue Hippodrome, située au cœur de la ville de Bukavu, porte désormais le nom de Solange Lusiku. Cette décision a été officialisée par un arrêté du gouverneur de province, Jean-Jacques Pouroussi. Ce document a été signé le 6 novembre 2024. Ce geste vise à honorer la mémoire de cette militante infatigable des droits humains et de la justice, une journaliste qui a lutté contre les injustices et les violations des droits fondamentaux dans la province du Sud Kivu. Dans l'arrêté, l'autorité provinciale souligne que cette débaptisation de l'avenue Hippodrome est une manière de rendre hommage à Solange Lusiku. Le gouverneur a également chargé le bourgmestre de la commune d'Ibanda d'exécuter cette décision, précise donc le média Le Souverain Libre.info. Exactement 6h36 minutes à présent, nous parlons sport.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Maedeleu. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
National de football INAFOOT, deuxième division. La jeunesse sportive de Bukavu, Ex-Ajax, a été tenue en échec par la CKPACO de Beni. Score final, 0-0. Deuxième match nul pour la JSBU après un match de la première journée à Ouvira face à l'AS Maïkab. Dans l'autre rencontre du jour et un jeudi à Bukavu, l'OC Mungano a battu Sokozaki de Butembo sur le score sans appel de 5-1. Belle opération des Charles Lille qui se relance après le nul de la première journée à Goma. A signaler que Sokozaki a fini le match à 9 après expulsion des deux de ce joueur, toujours en ligne à foot. Cette fois en première division, le FC Todd du Kivu affronte New Jack de Kinshasa. Les Oranges doivent l'emporter ce samedi pour se relancer alors que l'équipe occupe la dernière place au classement provisoire. Toujours ce week-end, soit le dimanche, l'OC Bukavu reçoit en direct de Kinshasa pour tenter de confirmer après les nuls face à New Jack le mercredi dernier. Toutes ces rencontres se jouent au stade de la Concorde en commune de Kadutu. Toujours en Ligue 1 Illico Cash, le football club Tanganyika s'est imposé hier jeudi devant les cheminots de Saint-Éloi Loupopo sur le score de 2-0 au stade Joseph Kabila de Kalemi. Déjà à la 19e minute, les locaux ouvrent le score sur un coup franc légèrement excentré centrer à droite. Enoch Ndai s'applique pour envoyer les ballons au point de pénalty où Ikoyo rate complètement son dégagement. La balle traîne dans la surface et Jean-Benoît surgit pour battre Mukawa pour l'ouverture du score en deuxième période d'avant-centre. Des poissons électriques et les airs, Niemwa va signer son premier but de la saison et un deuxième pour ce match. Et lui-ci va reprendre avec plus de réussite les centres de Danny Mbaya, cet autre prodige de Kalemi en provenance de Blue Singh, allant de la droite vers la gauche pour battre Mukawa pour la deuxième fois dans cette rencontre. Le club de Kalemi dans la province du Tanganyika est à la deuxième victoire consécutive dans son fief après le faux pas de l'espace Kasai après avec 3 défaites. Lubumbashi Sport et Don Bosco sont également en route pour la ville de Kalemi en vue d'y disputer une rencontre respectivement pour le compte de la Ligue 1 Illico Cachan. Exactement 6h39 minutes, par ici prend fin ce radio journal. Jean-Claude Ndagui a assuré la mise en onde devant ce micro pour la présentation expédie Kialou. Passez une excellente journée en compagnie de Radio Mandelo. Surtout, bon début de week-end à vous tous. Au revoir.